Nous sommes le jeudi 28 novembre, il est 21h. Bienvenue dans le nerf de la game. Le nerf de la game sur Radio Canus en 2.2, l'émission qui aborde le monde du jeu vidéo par sa face alternative. Chaque semaine ou presque, vous retrouvez ici un cocktail d'actu sur les rouages de l'industrie du jeu vidéo et sur les titres qui attisent la curiosité et surtout du côté indépendant du paysage vidéoludique. Salut Romain.
Salut Xavier.
Est-ce que tu vas bien ?
Alors, ça va ? C'est juste le micro qui est pas parfaitement à sa place.
Ah, c'est bien, j'ai entendu le grincement d'ici.
Exactement, c'est pas moi, c'est le micro. je suis vieux, mais pas à ce point.
Tu n'es pas si vieux, c'est ça. Eh ben, écoute, au sommaire, aujourd'hui, on va parler notamment de jeux vidéo et de son rapport à la guerre de manière générale et d'une guerre en particulier via une vidéo dont tu vas nous parler, Romain, tout à l'heure. Mais auparavant, je voudrais faire un message très personnel.
On t'en prie, on te sent ému, on te sent touché.
Ouais, j'ai été touché par un drame cette semaine. J'ai assisté malheureusement la mort de mon PC. Devant moi, j'étais en pleine communication avec Julien qui vient de temps en temps, et tout d'un coup, sans prévenir, voilà, rupture d'anévrisme, le blue screen of death. Et depuis, un vague flash de BIOS et plus rien. Un PC qui m'avait accompagné depuis un certain temps, grâce à ses hautes performances, qui me permettait de jouer à des jeux graphiquement très avancés. Le dernier auquel j'ai joué était donc la démo de Cathy Rains 2, donc du pixel et un peu de pixel aussi. Il le faisait tourner très bien, et voilà, adieu petit ange, parti trop tôt. Romain.
Oui.
Cette émission va surtout reposer sur toi, vu que moi je ne suis pas en état émotionnel, je n'étais pas en état émotionnel la préparer.
Ni évidemment. En état, on va dire, technique.
Ni en
t'avais
état,
pas les moyens techniques pour le faire.
En état technique.
Ce qui t'a bien rendu service.
Ben oui, parce que de toute façon, soit je pensais à mon PC, soit je pensais à sa faux neuf, donc c'était un peu compliqué.
Oui, c'était une semaine compliquée pour un fan du PSG aussi.
C'était compliqué.
Tout est arrivé en même temps.
Voilà. Tout ça, rien ne va.
Non, mais voilà.
Rien n'est allé.
Quand le sort s'acharne.
Voilà, quand le sort s'acharne.
Donc quand ça fait 13 ans que son équipe est incapable de passer les tours de Ligue des Champions. Non, mais je comprends.
Tu te tais et tu respectes le deuil des gens, s'il te plaît.
On en reparlera quand Lyon sera en Ligue 2 l'année prochaine. Mais cette émission, jusqu'ici, oui. On avait réussi à pas la faire déborder sur le foot.
Ouais. Ah bah là, on
essayait de rester sur des sujets un minimum. Je vais pas forcément dire sérieux au niveau des sujets, mais en tout cas rester sur des sujets respectables, en tout cas plus que le foot.
Oui. Après, je me souviens qu'on avait fait toute une partie sur la brouille entre FIFA et
FIFA et Electronic Arts
et du coup le rapprochement avec Konami, etc. Mais c'est vraiment d'un point de vue jeu vidéo.
Tout à fait. Et il y a quand même malgré tout. Un sujet en soi, dans le foot, dans le jeu vidéo, il y a d'autres choses à dire.
Oui.
Mais là, c'est effectivement pas vraiment le sujet. On va être relativement grave au niveau du thème de l'émission ce soir. Mm-hmm. Parce qu'en fait, cette semaine, je crois que c'est mardi, si je dis pas de bêtises, lundi ou mardi, une vidéo a été présentée. Alors, je vais vous donner tout de suite le titre de la vidéo, qui est déjà un petit peu assez explicite. Donc en version originale, c'est « The blood on our controllers, the complicity of the game industry in the Palestinian genocide ».
Et pour les non-anglophones, ça donne quoi ?
Du sang sur nos contrôleurs, sur nos manettes. Je pense que c'est même mieux. Du sang sur nos manettes.
Oui.
La complicité de l'industrie du jeu vidéo dans le génocide palestinien.
Alors, en quoi le fait que moi je joue à des jeux vidéo me rend complice du génocide palestinien ? Parce que
dans l'industrie du jeu vidéo, il n'y a pas forcément les joueurs.
Ah ! Pourtant, il dit sur les contrôleurs. Donc c'est pour ça que.
Sur nos manettes.
Ah ! Quelle est la thèse de cette vidéo ?
Alors, déjà, qui c'est qui l'a faite ?
Ok.
C'est intéressant. Enfin, donc, ils sont un certain nombre de développeurs de jeux vidéo, mais principalement. La vidéo d'ailleurs a été postée sur la chaîne YouTube d'Hippolyte Cobert, donc qui est un ex-développeur d'Ubisoft, qui a développé Card Shark, un jeu qui a été édité par Devolver.
Pour le coup, un bon jeu qui propose en fait de donner des techniques pour tricher à différents jeux de société entre guillemets pour avancer dans une histoire qui se passe disons dans la France de la fin du XVIIe siècle.
Oui, c'est à peu près ça. Enfin, l'idée c'est que voilà, il a un petit peu essayé de mettre un petit coup de pied dans la fourmilière du jeu de cartes habituel en proposant quelque chose d'autre.
Au final, c'est plus un jeu de manipulation et pas vraiment un jeu de cartes un deck et tout ce qu'on entend.
Tout à fait. Non, il joue avec des mécaniques de jeu pour raconter une histoire qui est effectivement basée un petit peu sur le mensonge, sur le paraître. C'était un petit peu le sujet de son jeu. Mais on a également donc quelqu'un qui est quelqu'un de très vocal dans l'industrie du jeu vidéo de façon générale.
Rami Ismail,
donc anciennement de Vlambeer, et puis du coup un développeur qui est, alors je sais plus comment, dans quel ordre faut le dire, enfin s'il est néerlando-égyptien ou égyptio-néerlandais.
Il me semble qu'il est né
si
aux Pays-Bas.
Il est né aux Pays-Bas, mais il est d'origine égyptienne.
C'est ça.
Et donc voilà, quelqu'un d'extrêmement vocal sur beaucoup de sujets, et notamment sur des sujets engagés, sur le racisme, que ce soit plein de sujets, il a beaucoup
parlé. De manière générale, vocal sur le sujet du jeu indé, du jeu vidéo indé, de manière générale. Hein.
Et des
moyens de production
en fait.
Aussi.
Et des moyens de production, tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un d'assez, voilà, d'assez impliqué dans tout ce que, dans tous les sujets finalement qui nous intéressent. Avec pas forcément, on n'a pas forcément.
Oui,
moi personnellement, j'ai pas toujours son avis.
Mais Rami, si tu n'entends pas, il y a Romain qui est en train de t'inviter à venir.
Voilà. Par exemple, maintenant, bon, Rami il fait beaucoup d'avions, mais venir jusqu'à Lyon, c'est peut-être un peu loin pour lui.
Oui, j'avoue que pour une personne aussi engagée, il a une empreinte carbone dégueulasse, l'ami Rami, parce que comme il est un peu partout, tu vois à la PAX East, tu la vois.
Un pilote amateur également.
Ah oui,
oui, oui. Non, c'est vrai.
Ah ouais, d'accord. Donc vraiment une empreinte carbone dégueulasse. Très bien.
Rami Ismail, donc voilà, quelqu'un quand même d'installé dans l'industrie du jeu vidéo.
Pour le coup, il y a depuis un sacré bout de temps.
Ouais, carrément. Ouais.
Quand on a commencé à parler de la fameuse scène indé début des années 2010, tout ça là, Rami Ismail,
il a suivi juste après.
Vlambeer, c'était déjà là à cette époque là.
Quasiment juste après, ouais, c'est ça. Avec Nuclear Throne.
Oui, voilà.
Avec d'autres.
Non, voilà. Donc ça, pour le coup, ça fait plus de 10 ans qu'on le voit de partout, dans tous les sens. Hein,
Ensuite, un autre Français, parce que Hippolyte Cobert évidemment est français, Florent Morin. Que tu connais, puisqu'il a écrit et développé The Wake. Et également Bury Me My Love, ouais. Enterre-moi mon amour en français.
Voilà. Qui sont dans deux styles différents, des jeux absolument déchirants. Dans leurs propos.
Bien sûr.
Dans leurs propos. Des sujets très différents, mais qui sont des jeux
vraiment d'aborder.
Déchirants. Moi, je sais que The Wake, j'en suis toujours parmi. Et Bury Me My Love, c'est simple. Je crois que j'ai pas pu le finir, vu la thématique. La thématique était tellement proche que, était tellement réelle. Et dur que j'ai pas pu le terminer à titre personnel.
Pour faire court, Bury Me My Love, donc, en termes à mon amour, c'est l'histoire d'un réfugié syrien, migrant. Donc, qui quitte son pays, vu les événements. Et qui on suit son voyage vers l'Europe et les difficultés, tout ce que ça implique de quitter son pays, d'essayer de rester en contact avec sa famille,
celui que tu incarnes, lui il reste au même endroit.
Il n'est pas en mouvement ?
Non, c'est la femme qui est en mouvement.
Oui, pardon. Tout à fait. Oui, tu suis. Indirectement,
voilà,
c'est
sa femme qui est en mouvement, qui essaye d'aller vers l'Europe.
Oui, oui.
Et toi, en fait, tu communiques avec elle par texto.
Oui, oui.
Et il se trouve que moi, j'ai pris l'option. On peut avoir un truc simulé où elle répond tout de suite, mais il y a une option pour que ça soit en temps réel. Et des fois, pendant plusieurs jours, il n'y a pas de notification, quoi. c'est très, très, très flippant des situations.
Ce qui peut se passer.
Ouais.
Et c'est effectivement pour montrer le mouvement, enfin la réalité
de ce que c'est de passer
de quitter un pays en guerre,
de quitter un pays en guerre et d'essayer d'arriver en Europe, ce qu'il en coûte. Voilà quoi.
Quatrième personne très impliquée dans la vidéo, Meg Giant. Alors, je ne sais pas exactement si ça se prononce comme ça, je ne pense pas. Quelqu'un qui est basé au Royaume-Uni, qui a écrit, qui a notamment écrit Sunless Sea.
Ok.
Donc chez...
Et Sunless Skies aussi, j'imagine.
Je crois également, ouais. Okay. Mais j'ai oublié le nom du studio qui l'a fait.
Je vais te retrouver ça. Rappelle-moi les concepts de Sunless Sea et Sunless Skies.
C'est des jeux d'exploration, globalement, dans un univers un petit peu entre le victorien et le steampunk, avec également un petit peu de surnaturel, un petit peu de créatures sous-marines à tentacules, ce genre de choses.
D'accord.
Donc voilà, mais avec tout un univers finalement écrit et décrit.
Ok, le développeur c'est Fail Better Games.
Fail Better, voilà.
Mais je connais pas du tout.
Voilà, ils ont fait cela et puis ils sont en train de préparer. Ils ont sorti aussi Mask of the Rose, qui est un visual novel, pour le coup, dans le même univers.
Ok.
Mais voilà, donc ces quatre personnes qui sont vraiment centrales dans le projet, en tout cas dans la vidéo, qui sont extrêmement vocales dans la vidéo.
Sachant que c'est une vidéo qui fait bien 2 heures. Hein.
Elle fait 2 heures.
Okay, donc
elle fait 2 heures, elle a quand même pas mal de choses à dire. Elle commence de façon assez compliquée.
Et en fait, avant de parler de comment il se déroule exactement, c'est pour ça que je te pose, maintenant que tu as présenté qui la faisait, donc globalement des gens qui font partie du monde du jeu indépendant, mm-hmm. et qui sont engagés à différents niveaux sur des thématiques.
Ou non, Hippolyte Cobert finalement, il n'avait pas vraiment eu d'interaction directe avec, beaucoup moins que Rami Ismail par exemple.
D'accord. Ou en tout cas qui ont une idée sur des thématiques de société et comment les retranscrire à travers du jeu vidéo. Mmh. Le titre paraît choc.
Oui.
En gros, qui serait l'industrie du jeu vidéo
aurait
une complicité. Vu si je reprends le terme.
C'est ça, exactement.
Une complicité
dans ce qu'ils appellent le génocide palestinien.
Dans le génocide palestinien, quelle est la thèse globale? Avant que tu racontes détail, quelle est la thèse globale du truc? J'imagine que c'est pas aussi simple que ça.
Non, c'est pas aussi simple et c'est peut-être moins finalement centré sur le titre de la vidéo, mm-hmm. le contenu de la vidéo. Le contenu de la vidéo est l'idée c'est qu'est-ce que nous mettons dans nos jeux? Comment est-ce qu'on parle de certains sujets? Comment est-ce qu'on parle de... comment est-ce qu'on met en scène la guerre? Comment est-ce qu'on met en scène certes, une région du monde en particulier, le Moyen-Orient? Et au final, qu'est-ce que l'industrie du jeu vidéo a dit ou n'a pas dit sur l'escalade qui est depuis un an, depuis le 7 octobre, dans cette région du monde?
D'accord, donc pour moi il y a 2 choses différentes.
Tout à fait.
Il y a d'un côté comment le jeu vidéo décrit le Moyen-Orient de manière générale, mm-hmm. et de l'autre côté, qu'est-ce qui s'est passé depuis le 7 octobre
et comment le
monde du jeu vidéo a communiqué ou pas dessus. Ce qui sont pour moi 2 sujets très différents.
Oui, avec un léger lien malgré tout, parce que de la représentation, enfin ta façon de représenter certaines cultures, certaines régions du monde, peut participer à une normalisation choses.
Non, en fait, je dis en fait, en gros, il y a un côté qui est diégétique, mm-hmm. et l'autre qui va être de la communication de studio, c'est pour ça que je dis que c'est 2 choses différentes.
Bien sûr, et d'industrie même de façon plus globale que simplement studio, mais tout à fait.
Voilà,
absolument.
C'est pour ça. D'ailleurs, justement, parce que je pense pas que ce soit une bonne chose. Juste de décrire faire le minutage
Bien
de
sûr.
La vidéo, ça me paraît pas pertinent.
Bien sûr.
Le mieux, c'est que les gens le regardent et puis fassent leur propre avis.
C'est l'idée de notre discussion aujourd'hui, de donner envie, parce que moi, je l'ai vu en entier. Il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes, mm-hmm. qu'on s'intéresse aux jeux vidéo, évidemment, mm-hmm. et en même temps, sur un peu plus que ça.
Je pense que c'est pour moi, en fait, pour moi, il y a ces 2 sujets-là.
Ouais.
Je pense que d'un côté, on peut discuter. Que ça soit par rapport à ce que tu as vu de la vidéo et par rapport à ce que nous on connaît du jeu vidéo dans un premier temps, c'est quoi la représentation du Moyen-Orient et de la guerre de façon générale dans les jeux vidéo,
ouais.
et qu'on passe après sur quelle est la communication
de l'industrie
du jeu vidéo
sur certaines causes en général
par rapport à, en tout cas en particulier vu que c'est ce que dont parle la vidéo par rapport à la cause palestinienne.
Oui, mais également bah du coup c'est lié aussi à d'autres causes.
Oui.
À la communication que l'industrie a connue déjà.
Ok. Et alors pourquoi alors déjà comment on joue à la guerre?
C'est un des sujets finalement qui a été le plus dans la vidéo. Il y a quelqu'un qui dit une des choses les plus faciles à représenter sur un écran, c'est la ligne. Et du coup, c'est très facile de transformer une ligne en une trajectoire de balle. Mmh. Et du coup, ça a été très très rapidement, finalement, une des premières choses qui a été représentée.
On tire sur des trucs.
Trajectoire de balle, ça peut avoir plusieurs sens. Mmh. Le premier jeu, Pong.
C'était une balle.
Oui. C'est un peu facile hein, comme analogie. Mais malgré tout, effectivement, on peut très très vite être dans la confrontation, dans le jeu.
Oui, oui, un des premiers. Parce que bon, tout le monde parle de Pong, mais le vrai premier jeu à succès n'a pas été Pong, au final. Parce que Pong, ça a été un succès certain. Moi, je pense plus à Space Invader.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
À cause du côté high score qui n'y avait pas forcément dans.
Non, non, il y avait parce que d'écoute c'était du 1 contre 1.
Voilà.
Pas dans le...
Alors que dans
Space Invader
justement, la fameuse anecdote en fait que les gens dans les bars en fait disaient que les machines tombaient en panne et on comprenait pas pourquoi. En fait, elles tombaient en panne, c'est pas le jeu qui était mal programmé, c'est parce que en fait, le jeu s'arrêtait parce que le truc à pièces était trop plein.
Oui, oui.
C'est
les gens jouaient
tellement en fait que quand le truc était à pièces, il y avait un truc qui faisait que
ça limitait.
Ouais. Ça limitait que tu pouvais plus y jouer quoi. Donc et c'est ça en fait qui et c'est pour ça que je dis que c'est le premier vrai succès et le premier vrai succès c'est on tire sur des trucs. Et donc c'est nous représente une guerre contre des ennemis extraterrestres.
Par exemple.
En tout cas, pour un des premiers.
Et ensuite,
et c'est pour
on
ça
a
que
eu...
je dis que c'est vraiment à l'origine. Enfin, quand tu dis la représentation de ligne, je suis d'accord avec toi. Mm. C'est le côté. Le premier truc, c'est on tire sur des trucs.
Voilà.
Ok.
Et tu peux aussi faire un lien avec finalement un lien assez direct avec l'armée de façon générale, la chose militaire, parce que les premiers ordinateurs sur lesquels on a développé ces jeux, ces tout premiers jeux, c'était du matériel, pas forcément directement militaire, mais en tout cas des financements militaires. Pour la recherche sur certaines choses.
Oui,
de façon générale, l'informatique.
Il faut bien comprendre
Internet, ce que tu veux, c'était des financements militaires.
Il faut bien comprendre que l'informatique, globalement, on le retrouvait pendant longtemps, on l'a retrouvé seulement à deux endroits, soit dans les universités, soit dans les complexes militaires.
Et ça arrivait souvent dans les universités parce que les militaires avaient intérêt ou étaient intéressés par ce que les universitaires pouvaient en faire.
C'est ça.
Donc, pour être un peu plus visuel, j'ai envie de dire, quand on a commencé les premiers jeux finalement où on tirait directement et officiellement sur des trucs, tu parlais des extraterrestres, ça a été effectivement un des bons sujets.
Oui, vu que je parlais Space Invader,
par
effectivement,
exemple,
c'est dans le
puis,
nom.
Et puis il y en a d'autres. Il y en a eu d'autres. Il y en a eu dans lesquels on tirait sur les extraterrestres. Oui. Une autre cible finalement qui a été relativement vite utilisée et en masse.
Quand on a commencé à faire des humains, oui.
Ouais, voilà. Sur qui on peut se permettre de tirer quand on parle d'humains, et ben très très vite tout le monde a tiré sur les nazis.
Parce que alors une fois de plus le contexte, on est au début des années 80.
Fin des années 80, même début 90.
Ah pour tirer sur des trucs.
Oui non mais avançons un peu dans l'idée plutôt que de refaire tout l'historique.
En tout cas dans les années 80, oui, punch nazi par exemple, personne n'emmerdait Indiana Jones parce qu'il butait des nazis. Hein,
par exemple, voilà.
C'était acceptable.
On pourrait en parler parce que dans quelques semaines sort un nouveau jeu Indiana Jones dans lequel les gens qui font le jeu ont été obligés de communiquer sur le fait bah oui on tape sur des nazis dans notre jeu il y a un moment arrêtez de. Enfin, ça pose problème à qui ? Parce qu'il y a des gens à qui ça pose problème. Bref, on en reparlera sûrement à l'occasion, mais ils avaient quand même été obligés de communiquer là-dessus, ce qui était ouf.
Bah oui, c'est normal.
Bref, du coup, donc voilà, on parlait voilà, dans un jeu de guerre, ils font un ennemi, les nazis, c'était une bonne cible, de la même façon que les extraterrestres, de la même façon que les démons, dans Doom, par exemple, que les zombies, dans beaucoup de trucs. Mmh. Et donc, Rami Ismail... Pendant la vidéo
et de manière aussi en gros les ennemis des ennemis non humains ou globalement humanoïdes qui viennent de trucs de fantasy pour...
Oui aussi, voilà. Effectivement, des orques, voilà, ce que tu veux.
Ce genre de truc, ouais. Voilà.
Bien sûr. Mais du coup, on est sur quelque chose, effectivement, de un ennemi déshumanisé, en fait. Mm. Le nazi, c'est bon, enfin, on l'a déjà rangé dans une case. Oui. Le reste de ce qu'on a cité, c'est pareil, c'est pas des humains, c'est pas grave.
Ouais. En tout cas, oui, pareil, hein, même dans les jeux de... Par exemple, dans des jeux de rôle... Mmh. Où tu vas taper les trucs de tour par tour, parce que un style très
ancien aussi,
très ancien, ouais. Ça va être
le dungeon crawler,
le RPG, etc. Quand c'est de l'ennemi humain, en gros, c'est enfin ça va être très très souvent
c'est du bandit,
du maraudeur, des trucs comme ça. On est rarement dans des univers avec des univers contemporains de toute façon.
Oui.
Et les rares fois, on commence à voir des univers contemporains, ça va être pour les premiers wargames.
Ouais.
Qui vont représenter des guerres avant la Première Guerre mondiale, de manière générale.
Et c'est peut-être là-dessus le premier truc.
On se souvient des Gettysburg, les trucs comme ça. C'est
oui,
les
voilà,
premiers jeux
c'est des guerres historiques.
Voilà. Ouais.
Où effectivement, on va mettre en opposition des situations tactiques et des situations stratégiques un petit peu globales.
C'est ça.
Pour un petit peu refaire l'histoire,
d'anciennes guerres,
mais ouais. C'était une bonne façon finalement d'apprendre à faire la guerre.
Est-ce que tu peux arrêter de casser le matériel, s'il te plaît?
Bah, je continue. je contribue. Je mets ma pierre à l'édifice dans l'état dans lequel il est.
Bah, c'est bien.
Malheureusement. Bref. Donc, c'est un petit peu peut-être effectivement une des premières remarques qu'on peut faire à la vidéo, je trouve. C'est que effectivement, Rami Ismail dit à un moment, au début, dans les jeux de tir, donc. Il n'a pas tort quand on parle de jeu de tir, parce que quand on parle de jeu de tir, on parle de shooter, on parle de FPS, de first person shooter. Donc les jeux où on est où on regarde par les yeux de celui qui tire.
Oui.
Donc
Wolfenstein 3D.
Dans lequel on tire sur des nazis.
Ouais.
Derrière, on avait Doom, où on tire sur des démons. Et lui parle d'un point de bascule qui est un jeu qui s'appelle Operation Desert Storm, donc qui se passe évidemment pendant l'invasion du Koweït. Par l'Irak et de la réaction qui a
date de quand
91 90 91 ah le jeu
non le non, le jeu,
le jeu 99 si je dis pas de bêtises.
Oui voilà, parce que en fait je me souviens qu'il était sorti à peu près en même temps qu'un jeu qui s'appelle Outlaws qui est un jeu de cowboy qui était sur le même moteur, le même principe,
voilà.
Et à l'époque, en tout cas, moi je le prenais comme un des milliers de
shooter,
clones de
ouais.
shooters sauf que là c'était des shooters sur Operation Wolf, ouais.
Oui,
okay. Effectivement.
Je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, voilà, il parle effectivement de la mise en scène, en tout cas.
Par contre, il parle en FPS. Il parle que du FPS, par contre. Hein, on est bien
là,
d'accord.
Spécifiquement, dans
ouais,
ce cas-là.
Parce ouais. que moi, alors, si ça te dérange pas, j'aimerais élargir à la représentation de la guerre de façon générale. C'est pour ça que je parlais de RTS. C'est pour ça que je parlais de Wargame. C'est pour ça que je parlais. Et par exemple, je sais que quand on en a parlé hier en antenne, le premier exemple que je t'ai dit, la première fois que j'ai tiré sur des trucs, c'était pas en jouant à Space Invader, c'était en jouant à un jeu qui s'appelle Metal Slug. Metal Slug qui est sorti avant, bien avant.
C'est un run and gun.
Oui, c'est un run and gun.
C'est un jeu d'arcade en fait.
Un jeu d'arcade.
Juste du côté où on court sur l'écran.
Qui date du milieu des années 90, qui était sorti sur arcade et sur Neo Geo, qui impressionnait par.
La console de Bourges.
Ouais, voilà. Qui était impressionné par des graphismes absolument incroyables par rapport à tout ce qui était produit à l'époque.
Une borne d'arcade chez toi.
Ouais, voilà. Bon, après, vu le prix, bon.
Exact. Bah, le prix avec.
Oui, bah écoute, c'est
plusieurs milliers de francs à l'époque, c'était
n'importe
quoi.
Ouais, vaguement une PS Pro, quoi.
Et aujourd'hui.
Oui, vaguement une PS Pro, quoi. Oui. Ça va. Ça va.
Mais
c'est pas si cher.
Non, mais parce que aussi l'importance et la valeur de ce loisir-là a été complètement relativisé.
Ouais, ouais. Mais en tout cas, enfin, pour revenir à Metal Slug, j'y avais joué sur arcade, sur une borne arcade, parce que c'était le jeu pixel art le plus beau que j'avais jamais vu à l'époque. Et le premier truc, tout le premier stage du premier Metal Slug, c'est tuer des ennemis qui ressemblent à des arabes ou en kéfier ou en turban ou ce que tu veux, avec un boss qui est clairement une parodie de Saddam Hussein.
Okay.
Donc là, c'est la première représentation que j'ai eue du Moyen-Orient dans un jeu vidéo, c'était ça. Et j'étais le bright hero, American hero, tu vois, et qui butait.
America fuck yeah.
Voilà, America fuck yeah. C'était honnêtement, entre Team America et le Lord Metal Slug, je suis pas sûr qu'il y ait une si grande différence.
Alors il y en a un qui est clairement parodique.
Oui. Metal Slug est censé l'être aussi.
Voilà.
Mais
quel message, quelle image tu laisses?
Voilà.
C'est un peu la question.
Et pour le coup, voilà, c'est un truc, hein, et je trouve que c'est un truc qui est relativement intéressant. Avant, justement, que on ait, j'imagine, parce que un truc que t'as pas dit, c'est que la vignette de la.
De la vidéo?
De la vidéo, c'est, ouais. Call of Duty Ghost.
Tout à fait.
Hein, donc c'est Call of Duty Ghost, et donc c'est plutôt les versions modernes des Call of Duty avec les guerres modernes, mm-hmm. ou qui sont associées à allons dans un pays du Moyen-Orient pour buter plein de gens et répandre la démocratie.
Exactement.
De manière générale. Et moi, c'est avant les Call of Duty, c'est les premières représentations que j'ai eues. Et on a eu d'autres, notamment suite à la première guerre, en Irak, parce que tu parles de ça, mais moi je te parlerai de Desert Strike.
Par exemple.
Je te parle toi qui aimes beaucoup les Jagged Alliance. Il me semble qu'il y en a un qui se passe là-bas, non?
Non.
Pas le 2?
Non.
Ah, je pensais qu'il y a des missions du toujours dans la jungle.
Alors,
tout ça.
T'as Deadly Games, qui est une série de missions complètement décousues les unes des autres.
Ouais.
Ou peut-être. Effectivement, ouais. Il peut se passer des choses. Je n'ai plus souvenir à quel point.
Ouais. Et puis. Il me semble qu'il y a. Alors, il me semble. Il faut voir. Je dis peut-être des conneries, il me semble que le contexte de Cannon Fodder, c'est déjà...
C'est Vietnam.
C'est Vietnam, Cannon Fodder.
Cannon Fodder, c'est
Vietnam.
Excuse-moi, ouais. Non, pas de souci.
Mais
le Vietnam serait un sujet très intéressant cette discussion.
Oui, pareil aussi. Ouais. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'au-delà des FPS, les représentations de guerre... je pense qu'il y a plein de questions à se poser sur...
Depuis les années 90,
moderne.
Ouais.
Je sais pas si on pourra le glisser. Je glisse juste Six Day in Fallujah, comme ça. Mais voilà.
On aura peut-être pas le temps.
Mais je le glisse
mais
quand même.
Je comprends très bien pourquoi tu le dis.
Mais je le glisse quand même.
Toujours est-il que, donc, effectivement, pour lui, il y a effectivement ce point de bascule dans la représentation des ennemis, dans le choix.
Effectivement. C'est pour ça que je suis pas sûr que ce soit tant un point de
voilà,
bascule.
Voilà. C'est pour ça que je disais, c'est peut-être un des moments où on peut dire, attention, peut-être que tu fais un raccourci un tout petit peu rapide.
Pour moi, le vrai point de bascule, je pense, c'est le premier Medal of... Non, les Medal of Honor, c'est toujours en Seconde Guerre mondiale. Oui. Donc, c'est le premier Call of Duty moderne.
Oui, voilà, peut-être un petit peu comme ça, ouais. Mais du coup, bon, on parle d'un certain nombre de jeux, tu en as cité beaucoup, qui commencent et qui contribuent, en fait, à diffuser une certaine vision des peuples et des cultures de cette région du monde. Et la vidéo passe un petit peu de temps à parler d'orientalisme. Qu'est-ce que c'est que l'orientalisme? Là aussi, je pense que si je commence à parler de ça avant la fin de l'heure, on a fini.
Je vous réoriente vers une très bonne vidéo d'origami sur le sujet, faite par Héloïse Linossier sur l'orientalisme.
Tout à fait, mais qui est donc globalement une certaine représentation d'une certaine région du monde, des clichés, une facilité en fait à mettre dans des cases et à déshumaniser d'une certaine façon, à déstructurer.
Parce que là, en gros, même dans les versions anciennes, si on parle notamment des représentations dans les Prince of Persia d'Ubisoft,
par exemple, dans les premiers, en tout cas, voilà, dans certains, en tout cas.
Ouais. Oui, voilà, et des représentations aussi de manière fantasmée dans certains jeux de rôle qui vont se passer dans une Arabie antique. Toute une imagerie hein, qui correspond peu ou prou à celle qu'on a du Aladdin de 92 par exemple.
Oui, un petit peu fantasmé de cette façon.
C'est ça.
Mais du coup voilà, donc avec c'est les jeux qui finalement sont
par exemple beaucoup plus sexualisés.
Absolument. Dans l'orientalisme, on a la sexualisation.
Beaucoup plus
on
sexualisé.
A la, comment dire la j'allais dire le côté un petit peu exotique.
Oui. C'est
inconnu, occulte.
Une fois de plus, c'est
l'occultisme et la sexualisation
pas pour rien que pour parler d'Aladdin, c'est pas pour rien que Jasmine, c'est la première héroïne dont on voit le nombril quoi.
Aussi,
la première princesse Disney dont on voit le nombril, c'est pas pour rien.
Mais ça fait partie
des représentations.
Bien sûr. Non mais complètement, c'est intéressant mais
oui, vas-y.
Voilà, non mais c'est difficile effectivement parce que ça reste un sujet où c'est facile de s'étendre et notamment parce que la vidéo aurait mérité de s'étendre aussi un petit peu plus. Alors, je comprends, la vidéo fait déjà 2 heures, qu'elle ait fait des choix et qu'elle s'est un petit peu se soit concentrée sur certaines choses. Mais donc on est effectivement sur. Je reviens encore un petit peu toujours parce que je trouve que Rami Ismail est un petit peu le fil rouge finalement de cette vidéo, avec certaines phrases, avec certaines façons de dire les choses, où il dit que les jeux ont échoué à représenter autrement le monde arabe globalement. Autrement que comme déshumanisé, que comme cible et comme victime normalisée.
Est-ce qu'il y a eu des tentatives?
Alors, j'allais avant ça, je voulais juste revenir un petit peu sur le.
Notamment, je sais pas ce qu'a fait un Magic Carpet, mais voilà.
Au niveau vraiment de la représentation, pas forcément positive, mais en tout cas crédible et.
J'ai pas dit crédible, non, mais.
Ouais, parce que dans l'orientalisme, tu vois, tu peux très bien le faire, tu peux très bien aller dans l'orientalisme de façon positive, entre guillemets, le fantasmer en mode c'est extraordinaire, c'est.
Ça me va très bien aussi.
Oui, bien sûr, mais enfin, tu vois, anecdote ultra personnelle. Dans ma famille, il y a quelques centaines d'années, bref, à l'époque de la construction du canal de Suez, les gens de la famille qui sont partis travailler sur le chantier, machin, sont revenus avec une certaine vision. Et sont revenus, en fait, avec certaines coutumes, certaines habitudes, certaines choses qui sont revenues, et notamment des prénoms. Mmh. Du coup, dans la famille, il y a des prénoms qui sont clairement originaires de cette région du monde, alors que au niveau ils venaient du centre de la France. Dans le Berry. Donc, y avait vraiment ce côté orientalisme positif, tu vois, de le représenter comme quelque chose de. C'est cool, tu vois, c'est différent, c'est intéressant, on connaît pas bien, machin. Et le côté un peu mystique, tout ce que tu veux, tu vois, vraiment toute la. Et en récupérer, si tu veux, un petit bout comme ça, en te disant, tiens, voilà, on va donner un prénom, tu vois, qui vient de là-bas, tu vois, le côté vraiment très. On va s'approprier ce truc-là parce qu'on trouve ça cool, tu vois, c'est. Ça existait déjà, oui. Ça fait très longtemps que ça existe, hein, ce genre de choses, mais tu peux très facilement faire de l'orientalisme positif. Okay. Donc c'était pas vraiment question, moi je revenais vite fait plutôt sur un truc qu'on a dit sur la guerre,
oui.
Et sur la représentation de la guerre, qui est en fait le lien direct entre... on parlait du lien direct entre les militaires et les jeux vidéo. Les militaires, pardon, et l'informatique, on peut faire le lien direct avec les militaires et le jeu vidéo. Les militaires sont présents sur les salons de jeux vidéo, jusqu'encore très récemment à la Paris Games Week. On avait un stand de l'armée. C'est le cas aux États-Unis, quand il y a des salons aux États-Unis, c'est le cas un peu partout. Et on a également des liens en termes de financement.
T'avais aussi le fameux jeu de recrutement américain.
American Army.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est effectivement l'exemple le plus facile, le fameux jeu de
recrutement. Il y en a pas eu des milliards pour le coup, parce que c'était un peu trop voyant, on va dire. Mais globalement,
il y a eu notamment pour l'armée britannique, il y a eu des équipes e-sport dans des jeux Counter-Strike, ce genre de choses. Ils ont aussi eu un petit peu cette démarche-là, parce qu'ils cherchent finalement des gens capables de s'adapter aux technologies modernes, à piloter des drones, ce genre de choses.
Pour le coup, je sais qu'il y a des formations de pilotes de drones où on recherche des profils plutôt joueurs.
Bien sûr, et parce qu'ils sont habitués, parce que les contrôleurs qu'on utilise dans nos jeux sont facilement transposables et utilisables, et on le voit très concrètement dans la recherche militaire, mais on le voit notamment... encore plus concrètement dans la guerre actuellement en Ukraine,
oui.
Où ils se servent de Steam Deck, donc la console portable de Steam, pour manipuler des mitrailleuses à distance, si je dis pas de bêtises.
Et ne pas oublier que, alors là, je reparle plutôt des années 90, début 2000, mais pendant longtemps, le PC, c'était la plateforme de la simulation, et quand on parlait de simulation, on parlait de simulation notamment très poussée au niveau de tout ce qui est simulateur aérien, et actuellement, on ne parle que de Flight Simulator, mais auparavant, c'était des simulateurs aériens pour des simulateurs aériens militaires.
Et il y en a toujours, le DCS, il y a le Sturmovik, il y en a eu un certain nombre dans l'histoire.
Sturmovik 2, oui.
Même déjà dans les années 90, avec des jeux...
Le Falcon 4.0, par exemple,
les gunships avec les hélicoptères.
Bien sûr.
T'avais énormément de choses effectivement dans ce domaine-là, et donc t'as des informations simplement sur le. Il y avait un côté un petit peu mis en avant finalement de ces équipements qu'on utilisait dans des théâtres d'opération modernes forcément, puisque c'était des véhicules, mais non des armes utilisées directement sur certains théâtres d'opération modernes actuels. Notamment la guerre du Golfe, qui était le dernier au moment où les jeux vidéo ont commencé à avoir, quand on a commencé à avoir la technologie nécessaire pour représenter ça le plus réaliste possible. Oui. Suffisamment réaliste. On sait
quel est le premier jeu à avoir des contrats avec des fabricants d'armes, parce que comme je disais, en fait, tu parlais des fabricants d'armes qui avaient justement des acquaintances avec des sociétés de jeux vidéo, entre guillemets, avec l'argument toujours du réalisme, ce qui fait que par exemple, tu vas avoir certaines marques qui sont dispo dans certains jeux, et pour que les marques soient dispo, c'est exactement comme pour un jeu de voiture. Si vous avez une Lamborghini quelque part, c'est que le jeu a signé un accord avec la marque Lamborghini. Mm-hmm. Enfin, la marque qui a
possède, ou en tout cas, voilà, une autorisation marque, ou n'importe quoi.
Une autorisation, en tout cas, il y a un contrat entre les deux, et c'est pareil. Si vous voyez une marque, si vous voyez un Colt Smith & Wesson, c'est que il y a un contrat avec la marque Smith & Wesson pour que ça apparaisse.
Voilà, ou en tout cas un représentant d'eux, de la même façon que si tu veux les joueurs de foot, tu as la FIFPro qui s'occupe de ça. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de choses qui sont mises en place, mais si tu veux utiliser les noms, les vrais noms et les vraies représentations, donc certains jeux le font pas, hein, et ils utilisent des noms approchants.
Oui, bah typiquement les Borderlands utilisent que des noms inventés de marques de flingues.
Bien sûr, mais enfin t'as eu effectivement beaucoup de facilité, enfin de pour contourner un petit peu ces choses-là, mais que tu reconnaisses malgré tout l'arme. Et effectivement, comme tu dis, des deals comme ça pour dire ok, vous avez le droit d'utiliser nos armes, mais ce serait même encore un peu mieux si vous les mettiez en avant et que ce soit l'arme du gentil, tu vois.
Ça a été le gros deal sur les Modern Warfare, sur les Call of Duty Modern Warfare. Je parle expressément des Modern Warfare justement parce qu'il se passe pas contrairement, parce que si vous peut-être avez-vous vu la vidéo de Great Review sur l'histoire de Call of Duty de manière générale, mais en gros, ça, il y a eu d'abord eu les Medal of Honor, puis les Call of Duty, avec des bisbilles de droits de studio, tout ça. Mais globalement, la grosse différence, c'est que les Medal of Honor, ils se passaient toujours pendant la Seconde Guerre mondiale. Les Call of Duty aussi, puis il y a eu les Modern Warfare qui se sont passés d'abord dans une guerre futuriste, puis une guerre
contemporanalisée. Enfin, voilà, c'est pas ça. Le terme existe, mais
et puis là où c'est vraiment la guerre au Moyen-Orient, Black Ops, c'est tuons les terroristes arabes.
C'est ça.
C'est vraiment ça.
Si vous avez une Fallujah. Voilà. Mais voilà. Et du coup, donc, on est sur effectivement des jeux qui montrent les armes occidentales, pas toujours, mais en tout cas en majorité, et une représentation finalement des militaires américains en grande majorité aussi.
Oui, les méchants ont des armes russes. Hein.
Et on montrait effectivement quasi exclusivement les militaires américains dans une situation positive. Quand je dis quasi exclusivement, c'est qu'on peut mettre Spec Ops The Line à part, c'est à peu près tout.
Alors déjà, on peut même se poser la question, et c'est très long, est-ce que Spec Ops The Line est un jeu de guerre? Mais
toujours est-il que les militaires américains, et en tout cas les alliés des militaires américains...
C'est un grand jeu, et que parmi tous les jeux qu'on est en train de citer, c'est le seul auquel vous devriez jouer.
Ok. Mais du coup, oui, voilà, enfin, on présentait toujours les militaires américains, ou en tout cas les militaires alliés, enfin, un bloc, si tu veux, d'alliés en termes d'intervention, comme les gentils, les sauveurs de la démocratie et du monde.
Oui.
Et notamment, on voit dans la vidéo une scène qui est assez marquante.
Spec Ops aussi, hein.
Bien sûr. Mais t'as une scène assez marquante.
Enfin, c'est le but du personnage à la base.
Voilà. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est qu'ils ont su narrer cette histoire autrement.
C'est un putain de grand jeu.
Toujours est-il que donc dans la vidéo, ils montrent à un moment donc une ville qui ressemble très pour très globalement à Gaza, avec des militaires américains sur un char, etc., qui sont en train d'évoluer dans un milieu hostile, et un missile qui tombe du ciel et qui explose un bâtiment et qui s'écroule complètement, avec les militaires américains qui font « Ouh, trop bien, on a réussi !» qui fait directement écho en fait aux images qu'on a vues en direct depuis un an de Gaza et des villes globalement de la bande de Gaza qui se font qui tombent en fait des bâtiments qui se font complètement effondrer à la bombe.
Moi je trouve que l'écho il est vraiment aussi aux images, en tout cas à la réaction des soldats américains, notamment lors de la guerre en Afghanistan, qui utilisaient les chansons de Blood and Gang, donc The Roof is on Fire, Burn Motherfucker, ou les morceaux de Drowning Pool pour Let the Ballad Floor. En gros, en déshumanisant complètement en fait les gens qui étaient là pour
oui,
et en les considérant vraiment comme du jeu vidéo quoi. Donc
et on l'a vu aussi,
il y avait déjà ça en gros dans la guerre en Afghanistan avec, et on se souvient aussi notamment en pour des opérations de militaires français au Tchad que tu avais un qui avait notamment mis le fameux casque de Ghost.
Le foulard
ouais. Ghost emblématique de Call of Duty et qu'il avait mis en opération au Tchad avec les armes et tout quoi. Mmh. Donc
on va pas parler des tatouages de Punisher sur
Oui voilà, ouais, mais de manière générale, il y avait de toute façon une vraie connivence entre l'imagerie véhiculée dans les jeux vidéo et l'imagerie fantasmée des militaires eux-mêmes.
Bien sûr.
Et forcément, hein, quand tu vois juste quand il y a un parallèle qui est fait entre la scène que tu décris et celle en fait qui est aujourd'hui en fait à Gaza, les soldats israéliens, pour le coup, les Israéliens, Israël est un pays très occidentalisé au niveau de ses au niveau de ses loisirs. Qui avec des gens avec une très forte communauté au niveau du jeu vidéo, beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo. Ajoute ça à un service militaire obligatoire de quoi 3 ans, si je dis pas de bêtises.
Pas autant je crois, mais
enfin
oui,
2 ans quasiment, ouais. Enfin super long. Oui, t'as une culture forcément, t'as quelque chose qui avoisine quoi. Enfin, je veux dire, si, si t'as des soldats français qui sont en train, qui font muse avec des foulards Ghost.
Oui, évidemment. Et on a vu des choses qui pourraient relever du crime de guerre, et c'est pas pour rien qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été déposé extrêmement récemment envers certains dirigeants israéliens.
Oui, mais il y a une forme d'humilité, comme dirait notre président.
Alors, ça a l'air flou, ils ont pas l'air d'accord entre eux.
Entre le président lui-même, tu veux dire?
Entre Barnier et le Quai d'Orsay. Bref, c'est un autre sujet. Et pas complètement, mais c'est un autre sujet.
Alors, c'est pas du tout un autre sujet.
Non, bien
sûr. Pas aujourd'hui, pas le
voilà,
sujet d'aujourd'hui.
C'est pas maintenant, c'est pas le... bref, revenons un petit peu. Donc, voilà, on parlait de la représentation des jeux et la représentation de la guerre et la guerre dans cette région du monde qui contribue, en fait, à déshumaniser ce qui se passe là-bas, en fait, à normaliser ce qu'on voit au quotidien. Dans cette région du monde, en se disant bah ok, de toute façon on a l'habitude, on le voit déjà. On en avait parlé vite fait quand on préparait l'émission aussi. On parle de jeux vidéo, mais on le voit déjà dans les films depuis aussi plus longtemps que ça.
Super longtemps. Typiquement, moi qui ai beaucoup regardé une série incroyablement
très bien scénarisée,
et très légèrement républicaine dans le sens américain du terme, et qui s'appelle NCIS. NCIS en plus c'est typique parce que c'est une série qui a été créée en 2001 pendant les premières saisons c'était très l'ennemi intérieur parce que les États-Unis étaient traumatisés par l'attentat d'Oklahoma City qui était pour le coup des terroristes d'extrême droite
intérieur.
À partir de 2001,
ça a changé
de fin 2001,
oui, il s'est passé
de fin 2001, c'est-à-dire la saison elle a commencé avant les attentats, à partir de fin 2001 et pendant quasiment 10 ans, ça finit par se recalmer un petit peu après, mais globalement pendant 10 ans c'était tu es vaguement bronzé, tu es un terroriste, et on va te mettre une balle dans la tête, t'es un ennemi de l'États-Unis, hein, et tous les moyens sont et tous les
voilà.
coups sont permis, hein.
C'est ça,
bah,
on le voit aussi dans 24 sur l'utilisation de la torture. Petite mention au travail de Jacob Geller sur il a fait une vidéo qui retrace toutes les scènes de torture dans les Call of Duty et toute une réflexion finalement sur la torture de façon générale, sur son efficacité, sur
ça
son
marche.
Rôle.
Le torture, ça marche.
Dans les films. En vrai.
Non, dans non. les fictions, de manière générale.
Dans
ça
les
marche.
Fictions, ça marche.
Et en vrai, tous les gens de
tous les gens qui font du renseignement, tous les gens qui sont formés
savent
à
que,
ça,
sauf que globalement ça le taux
c'est efficace sur la terreur, c'est pas efficace sur le renseignement.
En fait, sur du renseignement non, c'est efficace pas sur des gens clés, on va dire.
Oui, et pas sur il y a une bombe qui va exploser dans 20 minutes, il faut qu'on ait l'information, on va péter la gueule du gars, il va finir par nous la donner. Ça marche jamais dans ces cas-là. On le sait. Mais la fiction nous montre que c'est
parce
une solution.
Non, parce que t'as un truc de tension et puis voilà, c'est exactement le même principe
fiction,
que
quoi.
C'est le même principe que toutes les bombes, il y a un minuteur avec des gros chiffres dessus quoi. C'est
oui, voilà, par exemple. Bref, c'était un aparté, mais cette vidéo de Jacob Geller vaut vraiment le coup sur les Call of Duty et s'intéresse beaucoup à la représentation de plein de choses dans les Call of Duty. Donc oui, on revient sur ça. Et la question de départ, c'était, et la question de départ du documentaire, c'est quelle est la responsabilité finalement, ou en tout cas, qu'est-ce que peut faire l'industrie du jeu vidéo? Sa responsabilité sans la représentation et dans une certaine représentation de la guerre et de certaines régions du monde, on en a parlé, sur finalement l'industrie du jeu vidéo, est-ce qu'elle s'est déjà mobilisée pour des causes par le passé? Oui. En 2020, Black Lives Matter, il s'est passé des choses. Il y a des gens qui ont exprimé des choses, il y a eu des levées de fonds, il y a eu des choses. 2021, déjà la Palestine.
Il y a eu des prises de position.
Des prises de position.
Il y a eu des changements même en termes de politique RH d'entreprise, etc.
Sûr.
Ça a été assez profond. Faut dire que c'était un problème très interne américain.
Et malgré tout, il y a quand même une bonne partie de la production du jeu vidéo qui se passe sur ce territoire.
Je pense que la mobilisation pour Black Lives Matter dans l'industrie japonaise, excuse-moi.
Oui, non, bien sûr.
Je pense qu'ils en ont rien à foutre et vous avez relativement raison de.
Oui, mais c'était beaucoup moins concerné.
Parce qu'ils se sentent pas concernés.
Toujours est-il que ensuite on a eu la Palestine déjà en 2021 avec déjà une première intervention de d'Israël à Gaza qui avait été déclenchée par un événement beaucoup moins marquant que le 7 octobre.
Alors c'était déjà plus timide que sur Black Lives Matter, c'était vu que déjà... ça concernait beaucoup plus des indés et oui. Beaucoup moins des positions de grosses boîtes pour
oui,
commencer.
C'est vrai.
Là où Black Lives Matter c'était vraiment très généralisé entre les grosses boîtes et les petites boîtes et les indés de manière générale. Mm-hmm. Là où pour la Palestine c'était un peu comment dire c'était aussi dans le comment dire dans le flow de on peut s'organiser pour faire quelque chose. Mm-hmm. Parce que ça rejoint aussi des mouvements sur notamment des mouvements sur l'égalité des droits des personnes LGBT. Il y a eu des mobilisations aussi qui tenaient à ça et c'était un peu dans le
je sais pas c'est... Et puis ils avaient l'expérience de 2020
voilà.
Sur Black Lives Matter.
Voilà.
Et puis derrière on a vu 2022, l'Ukraine. L'Ukraine, il se passait énormément de choses également.
Oui, là pour le coup,
donc,
là pour le coup en fait alors moins de choses sur les très gros mais quand même des prises de position
oui,
officielles.
Oui, des boîtes qui ont arrêté leurs activités en Russie, qui ont arrêté de vendre en Russie. Voilà. Et il se passait deux, trois trucs.
Voilà, moins de choses sur le côté comment on le traite en interne dans les boîtes.
Oui, bien
par
sûr,
rapport
parce que
à
ça avait moins de,
c'est normal.
Ça avait moins de sens.
Par contre, beaucoup plus de décisions plutôt économiques via le boycott à la Russie.
Et du coup, médiatique aussi.
Et médiatique aussi, des ce qu'on appelle, enfin j'allais dire des signalements, donc des call-outs dans l'entreprise où on disait eux...
Eux ils continuent de travailler, eux ils sont machin.
Voilà, ces genres
on
de choses.
On a vu des boîtes russes, en tout cas basées en Russie, s'installer opportunément à Malte ou en Chypre, ou à Chypre.
D'autres russes qui ont pour le coup, qui sont vraiment...
vraiment
partis. Qui sont vraiment totalement délocalisés et qui ont... Voilà.
Oui, qui ont déménagé clairement. Oui.
Et, et avec un mouvement même qui paraissait très... Enfin, une fois de plus, hein, Internet, c'est tout à fond, pas de frein. Donc, sans prendre compte que... Dire, ouais, toi, tu devrais pas y être, sans prendre en compte que des gens se mettent en danger, comme ça, quand même, c'est mettre des gens
bien
en
sûr,
danger
mais,
aussi. Donc,
oui, bien sûr, mais c'était un petit peu... Enfin, voilà, c'était un petit peu l'enjeu en fait de certaines mobilisations, effectivement, de prendre des risques à chacun son niveau. Effectivement, certains ils prenaient des risques
oui,
par
non,
rapport
mais
à leur
famille. Il y a justement il y a
des risques économiques,
de dénonciation qui faisaient prendre des risques à des gens qui n'avaient rien demandé.
Toujours est-il que 2023-2024, l'industrie n'a, en tout cas, c'est la thèse, hein, c'est le point de départ de la vidéo clairement. L'industrie n'a rien dit.
Ouais, mais la Palestine, on a déjà fait.
Alors, c'est peut-être un peu de ça.
C'est bon, on a déjà fait.
Quoi. Peut-être un peu de ça, mais il s'est passé, par exemple, je parlais de Meg Giant au départ.
Donc, c'est NS6, ok.
Ouais, qui avait préparé en fait un discours au Golden Joystick Awards.
Ok.
Donc, qui se déroule mi-novembre.
C'est aux États-Unis, ça
non, c'est en Angleterre, je crois.
C'est en Angleterre, ça vient.
Qui se déroule mi-novembre, donc ils viennent d'arriver. En fait, là, très récemment, on les a connus il y a 10 jours, même pas, mm-hmm. une semaine. À l'heure où on parle. Et donc, il avait prévu, en fait, un discours pour parler de façon extrêmement ouverte, en fait, sur l'humanité, sur ne pas accepter que des civils et des innocents meurent sans raison. Et donc, en fait, on lui a refusé ce discours. On lui a censuré ce discours sous prétexte que la cérémonie ne fait pas de politique. Quand, les années précédentes, des développeurs s'étaient exprimés sur l'Ukraine, s'étaient exprimés sur Black Lives Matter, sur d'autres sujets. Mmh. Mais cette année, donc 2023, donc quelques semaines finalement après le début des événements là-bas qui avaient déclenché l'offensive israélienne à Gaza, ils avaient refusé en fait que ces mots-là soient exprimés en fait.
D'accord, donc là...
Ces mots extrêmement neutres dans la neutralité de dire, ok, il se passe des trucs, mais... si on peut éviter de foutre sur la gueule sur les civils, ce serait quand même un peu la base.
Donc là, en fait, on va arriver sur des questions d'image globalement, sur des raisons
ouais.
de.
Et il y avait des gens qui disaient, nous, on ne peut pas parler parce que il y a une certaine, on prend pas de risque parce que c'était devenu en fait un risque.
C'est tout.
C'est un discours en fait qui a été tenu.
Comment on dit sur Netflix, too hot to handle.
Il y a, en tout cas, c'est un discours qui est présent dans la vidéo. Des gens qui disent, voilà, j'ai des gens qui sont venus me voir en me disant, j'aurais bien aimé parler, mais je ne peux pas. Encore une fois, c'est un des défauts que je trouve à la vidéo, c'est pas arrivé, c'est que le présenter comme ça, il y a un côté un peu sur ce sujet-là, on nous a dit de pas parler.
Ouais,
c'est un peu gênant parce que tout le thème, toute la thèse de la vidéo, il est beaucoup plus profond, il va beaucoup plus loin sur le fonctionnement même de l'industrie et de l'industrie du spectacle.
La vraie problématique en fait, c'est que tu es obligé d'interroger le on. Et t'es obligé d'interroger le on parce que qu'il y ait des pressions pour qu'il n'y ait pas de discours dans ce sens-là, je veux dire, ça s'entend exactement comme j'ai pas envie qu'on parle de Black Lives Matter, j'ai pas envie qu'on parle de
droits LGBT,
j'ai pas envie de LGBT. Ouais. Qu'il y ait des pressions, ça s'entend, pas que c'est normal. Que c'est plutôt logique parce que il y a des gens qui ont pas envie qu'on parle de ça parce que on est dans une entreprise divertissement et on veut pas parler de ce genre de choses.
Ils veulent rester sur le côté effectivement.
Mais par contre,
on est là pour s'amuser.
T'es obligé, quand tu dis on, il faut dire qui, quand, quoi, comment et pourquoi.
C'est ça. C'est un petit peu un des défauts que je trouve à ce début de vidéo qui finalement aborde les choses comme ça.
Malheureusement, parce que pour moi, on reste dans une position victimaire.
Je suis assez d'accord sur
dans une
sur
position
le terme.
Victimaire. Et il y a des et le truc c'est qu'il y a des il y a des il y a des enfin nous on est une émission de jeux vidéo donc moins 8 minutes, on va pas pouvoir creuser toutes les raisons de pourquoi globalement le fait que dans le paysage occidental on veut sans faire du soutien unilatéral à Israël, il est pas de bon ton de dire qu'Israël fait des choses pas bien.
Et depuis beaucoup d'années maintenant.
Depuis beaucoup d'années. Une fois de plus, on peut pas. Enfin,
sur Canu, globalement, il y en a qui se permettent et qui ont les connaissances nécessaires pour le faire et qui le font très bien.
Autant au niveau jeu vidéo, on va pouvoir
un petit peu en parler.
Autant là, nous, honnêtement, c'est surtout que
on va rester en superficie.
On va être superficie et pour globalement dire de la merde. C'est pas que ça vous dérange de dire de la merde parce que voilà. C'est juste que
sur ces sujets comme ça,
j'imagine que je pense qu'on sera assez inexact là-dessus.
Voilà.
Mais néanmoins, voilà, clairement, le fait que qu'il y ait des communications qui aillent dans ce sens-là et que l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble ne veut pas aller et qu'il n'y ait pas consensus dans l'industrie du jeu vidéo pour aller globalement dans ce sens-là, n'est pas anodin. Et pour moi, en fait, le fait, j'espère que la vidéo, ce qu'elle fait, c'est au moins relier cet état de fait avec la représentation du Moyen-Orient de manière générale dans les jeux vidéo et dans les univers de fiction occidentaux depuis extrêmement longtemps, fait que il est difficile d'humaniser et d'avoir d'avoir de la compassion pour des personnes venant de ces endroits-là.
Alors justement, c'est la vidéo parle un petit peu de ce qui va dans le bon sens, avec notamment ce qui n'était pas forcément de là qu'on l'attendait, d'Ubisoft. Avec Assassin's Creed Mirage.
Je suis pas étonné.
Pour lequel ils ont travaillé avec l'Institut du Monde Arabe à Paris pour représenter donc la région du monde dans laquelle ça se passe et à la période concernée, c'est-à-dire Bagdad au 8e, 9e siècle, je sais plus dans ces eaux-là. Et donc, ils ont fait un effort vraiment pour, en plus de ça, rajouter toutes des pièces de collection de l'Institut du Monde Arabe pour montrer la culture locale. Rami Ismail disait que c'est la première fois que dans un jeu, il voyait la représentation de la première prière du matin correctement représentée. Tout simplement. C'est quand même pas C'est anecdotique, mais pas seulement, mais pas tant que ça. Mm. Et en fait, ensuite, qu'il disait que l'effort de représentation et de la qualité de la représentation n'était pas réservé aux studios qui avaient des normes moyens comme Ubisoft. Et avec notamment la recherche, enfin, les indés font des choses, et on revient sur un assez long passage sur Florent Morin, en fait, qui parle de son expérience pour Bury Me My Love, dont on a parlé au début. Mm. Et ensuite, ils ont parlé également des jeux de façon plus générale. Du rôle des jeux, que les jeux peuvent avoir dans la diffusion comme outil universel de diffusion de la culture. De la culture, de l'histoire, de l'art, avec des interventions de chercheurs, etc., pour montrer que des jeux peuvent être utilisés comme des moyens d'expression, par exemple pour journalistes, dans des pays où c'est compliqué de s'exprimer. On l'avait vu par exemple avec une bibliothèque créée dans Minecraft, remplie d'articles censurés dans les pays où ils ont été écrits.
On en avait parlé il y a quelques émissions.
Par exemple, on avait vu la reconstitution de Palmyre dans Minecraft, la zone qui avait été détruite par les talibans là-bas.
Les talibans, ouais.
Par exemple. Et donc voilà, que le jeu vidéo a aussi, permet des choses. Mm. Permet d'être utilisé pour montrer certaines choses et de diffuser aussi de la culture. Et sans forcément rentrer dans les clichés comme on l'a évoqué depuis le début, en fait. De montrer, alors là, on parle de certaines régions du monde en particulier, spécifiquement le Moyen-Orient dans un très très grand ensemble, mais bien plus que ça en réalité. Et enfin, il y a la question...
Un jour, je ferai une heure sur l'Indonésie, mais ok.
Complètement, bien sûr. Non, mais oui, oui, carrément.
Mais je pourrais.
Et on en vient à ce que peut faire l'industrie du jeu vidéo pour réhumaniser, je ne sais pas si le terme est bon... certaines histoires avec le grand H.
Je trouvais que, en parlant d'Assassin's Creed, on parle d'Assassin's Creed Mirage. Mmh. Moi, j'ai envie de reparler vraiment du premier Assassin's Creed.
Aussi, ouais.
Qui avait quand même un pitch où, comme on l'a dit en préparant l'émission, ouais. Qui serait absolument pas accepté aujourd'hui, vu que, en gros, on va dire, tiens, on va fêter un héros, on va le mettre pile au moment des croisades à Jérusalem entre des peuples musulmans, des peuples juifs et des peuples chrétiens. Et globalement, on va aller tuer des gens chez tout le monde. Mmh.
Les gentils et les méchants dans cet univers-là, c'est pas lié.
Parce que justement, il y a des musulmans. Enfin, il y a.
Après, bon, c'est vrai que c'est différent aussi de les. Enfin, t'as effectivement les cultures, les peuples, les religions, c'est des choses extrêmement variées.
Et ce qui était assez marrant, parce que c'est un jeu extrêmement manichéen, hein, avec ses templiers, ses assassins, les gentils, les méchants. Et alors que les templiers, pour le coup, c'est censé être un truc très, très, très chrétien, c'est en fait, ça montrait globalement plutôt la corruption, elle était dans. C'était pas une question de religion.
Intéressant.
Et je trouvais ça pour le coup intéressant. Mmh. Et au-delà de côté positivé, c'était plus. Un avis plus nuancé, c'était
une vision
beaucoup plus nuancée.
Oui, même si elle avait des défauts dans la représentation,
évidemment.
Encore une fois.
Évidemment.
Mais au moins, elle était moins manichéenne dans les gentils et les méchants, c'est qui.
Honnêtement, je vais pas forcément demander une représentation exacte, mais je vais demander une représentation nuancée et pas manichéenne et qui ne présente pas tout un peuple comme un bloc. Ce que je trouverais intéressant dans le premier Assassin's Creed, en tout cas.
Mais ce qui est, donc du coup, c'est ça, la vidéo finit par se poser cette question-là, et je finirai avec cette phrase de Rami Ismail, encore une fois. Je sais que nous ne sommes pas les arbitres sur un sujet de ce genre, parce qu'on n'est pas les seuls à exprimer des choses et à avoir un rôle à avoir. Mais en tant que média culturel le plus puissant du monde, parce que c'est celui qui brasse le plus de pognon, parce que les Game Awards qui vont arriver bientôt ont une visibilité bien plus importante que les Oscars, par exemple, avec 110 millions de spectateurs pour les derniers Game Awards.
Alors,
c'est discutable sur les pourcentages, sur les nombres exacts.
Pas sur les nombres, sur l'influence. Mais
oui, bien sûr. Mais en tout cas,
notamment l'entrisme des Game Awards dans les médias traditionnels par rapport à l'entrisme des Oscars dans les médias traditionnels et leur impact.
On est sur d'autres choses, mais sur le nombre de personnes touchées. C'est une question qui peut se jouer en chiffres. Mmh. Et donc, du coup, il dit, voilà, en tant que média culturel le plus puissant du monde, nous devons au moins d'essayer.
Oui.
Et conclusion, effectivement, sur le fait que les jeux sont un divertissement, mais peuvent être plus. Et il n'y a pas de raison qu'ils soient pas compatibles avec la défense de causes justes.
Oui, non, mais les jeux vidéo, enfin, pour le coup...
Comme d'autres, hein, comme je d'autres fais, je domaines, mais eux, ils parlent de ceux
j'ai aucun
sont.
Problème à faire le parallèle entre les jeux et entre les jeux vidéo et les films d'un point de vue impact culturel sur, par exemple... L'impact culturel qu'ont eu les films, les films justement de guerre sur le Vietnam, ont eu un, ont façonné la vision des gens sur le Vietnam, sur qui était l'agresseur et qui était l'agressé, d'accord ?
Oui, bien sûr. Et, voilà. Et des deux côtés. Enfin, il voilà, y a des films sur le Vietnam anti-guerre. Donc il y a eu énormément de façons différentes d'aborder la même chose.
Je dirais même plus que les films les plus populaires, plus, oui. C'était plutôt les films anti-guerre, de manière générale.
Tout à fait.
Donc c'est ça que je... Enfin, et je trouve que du coup, l'impact que ça a sur, la vision des gens...
Mmh, sur les spectateurs,
et sur les spectateurs, est extrêmement important. C'est-à-dire que voilà, tu peux aussi bien avoir le premier Jarhead et de l'autre côté, American Sniper.
Donc voilà, je pense que ça va être l'heure d'arrêter. On n'a pas, on aurait pu continuer longtemps.
Oui. Mais on n'a pas.
On aurait pu continuer longtemps.
Des sujets principaux.
Petite mention à un documentaire dont j'aimerais parler un peu plus une prochaine fois peut-être de People Make Games sur les jeux vidéo et les militaires de façon générale et le monde militaire qui s'appelle The Game Behind Your Government's Next War. Donc les jeux derrière la prochaine guerre de votre gouvernement. Qui montre les liens étroits entre les créateurs de jeux, les penseurs de wargame et les militaires. Parce que les premiers wargames ont été créés par des militaires pour des besoins militaires. Derrière, c'est devenu un petit peu des jeux. Et en même temps, les militaires n'ont jamais lâché finalement les créateurs de ces jeux par rapport à la complexité des situations qui permettent de simuler et en tout cas d'envisager. Et donc voilà, ça c'est un documentaire extrêmement intéressant qui est un sujet, je dirais, connexe à ce qu'on vient d'évoquer. Un sujet de façon globale. Moi, c'est une vidéo que je recommande. On l'a évoqué vite fait, quelques réserves sur peut-être certaines approches, mais elle a un discours qui est intéressant à écouter, quoi qu'il arrive,
oui.
Et qui va peut-être un peu plus loin que le jeu vidéo en tant que culture,
mais en tout
culturelle.
Cas, au-delà du discours et de la pertinence de la vidéo qui existe, hein, c'est pas le cas, c'est pas le problème. C'est au moins se poser la question en fait de l'impact que peut avoir la manière
dont
on représente les choses sur notre vision, du monde. Et toujours se poser la question de la poule et de l'œuf. Est-ce que c'est la manière dont les choses sont représentées qui façonne notre avis ou l'inverse?
Alors qu'on sait de toute façon que c'est l'œuf, parce qu'il y a eu des œufs avant d'avoir des poules. Bref, on se quitte là-dessus. On rappelle vite fait qu'on fait toujours nos quiz.
Oui.
Les quiz presse tarte, donc au bar chez les tartes. Le prochain, ce sera le 10 décembre, le mardi 10 décembre, à partir de 20h, 20h30.
Voilà, vous allez sur les réseaux sociaux chez les tartes, donc sur Facebook, sur Instagram, et vous pouvez réserver une table sans problème, on vous accueillera.
Avec plaisir.
Avec plaisir, et de ce que j'ai compris, et sans mauvais jeu de mots, ce sera la guerre.
Et non, ce sera Noël.
C'est la merde.
Ok.
Exactement.
Merci beaucoup, Xavier.
Merci à toi, Romain.
Et puis, passez une bonne soirée.
Salut.